Vous écoutez
RMC.
Il est 8h, merci d'avoir choisi RMC. Très belle journée à tous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Vous allez avoir envie d'arrêter la cigarette électronique ce matin. Une étude inédite des autorités sanitaires alerte sur les dangers du vapotage. On s'y met souvent pour arrêter de fumer. Le problème, c'est qu'on finit par devenir accro, vous verrez. On sera dans le journal en direct de Sanary-sur-Mer au lendemain de l'agression d'une enseignante dans un état stable ce matin, poignardée par un collégien de seulement 14 ans. Entrer dans son établissement avec un couteau. Et vous entendrez les réactions au RN ce matin, au lendemain des réquisitions au procès en appel des assistants parlementaires. On saura cet été si Marine Le Pen est candidate à la présidentielle.
Bon, pour ceux qui en doutaient, la cigarette électronique est bien dangereuse pour la santé.
Il y a 3 millions de Français qui vapotent en France et qui ne se privent pas de le faire en intérieur d'ailleurs, alors que c'est mauvais pour la santé. L'Agence de sécurité sanitaire a compilé plus de 2800 publications et c'est la première fois qu'on a donc une étude d'une telle ampleur. Elle nous dit, Romain Houck pour RMC, que c'est moins dangereux que la cigarette classique, mais que c'est pas bon du tout.
Oui, parce que quand vous vapotez, vous inhalez des substances toxiques. L'agence sanitaire en répertorie plus d'une centaine particulièrement préoccupantes. Des substances liées aux métaux présents dans les liquides, mais aussi des substances qui se forment lorsque ce liquide est chauffé, comme les aldéhydes, un composé qui se fixe sur les tissus respiratoires et les dégrade. Et parmi les autres constats, le vapotage peut endommager vos cellules et ainsi favoriser un terrain cancéreux. Il peut aussi entraîner l'apparition de maladies pulmonaires et cardiovasculaires en s'attaquant à votre fréquence cardiaque, à votre pression artérielle. Et ce, c'est important, même si le liquide est sans nicotine. Enfin, vapoter lorsqu'on est enceinte présente les mêmes risques pour le fœtus.
Alors, que disent les autorités sanitaires aux vapoteurs ?
Eh bien, votre cigarette électronique doit uniquement vous servir à arrêter de fumer du tabac et sur la période la plus courte possible. Parce que, en plus des risques directs sur la santé, l'autre enseignement de cette étude, c'est que la fumée de la cigarette électronique, lorsqu'elle contient de la nicotine, est tout autant addictive que la fumée de cigarette classique. Près de 60% des usagers vapotent depuis plus de 2 ans. Enfin, l'agence demande à protéger les plus jeunes, souvent ciblés par le marketing agressif de ces produits au goût fruité et sucré.
Voilà toutes les explications ce matin signées Romain Houck pour RMC. Des nouvelles ce matin de l'enseignante de 60 ans, poignardée par un élève hier dans un collège de Sanary-sur-Mer dans le Var. Son état est stable, mais toujours grave. L'élève en question a passé la nuit en garde à vue. C'est donc un collégien de 14 ans. Pierre Bazin, vous êtes l'envoyé spécial de RMC en direct ce matin devant le collège de la Guicharde de Sanary-sur-Mer. On se demande toujours pourquoi il a fait ça ce matin. Il aurait fait part de ses envies de vengeance.
Oui, c'est en tout cas ce qu'ont pu confier certains de ses camarades dans la foulée des faits. Des éléments évidemment en cours de vérification par les enquêteurs. Mais dès hier, le procureur de Toulon, qui exclut à ce stade tout motif religieux ou politique, a expliqué que la professeure de 60 ans, victime des coups de couteau, avait rédigé plusieurs rapports pour signaler le comportement du jeune homme de 14 ans. Des signalements qui exposaient le suspect à une exclusion temporaire et qui auraient donc pu générer une envie de vengeance. C'est en tout cas une piste de travail des policiers qui s'intéressent à cet adolescent, décrit par d'autres professeurs comme un élève perturbateur et agaçant, coutumier des sanctions disciplinaires. Pour autant, avant les faits, rien ne laissait penser qu'il s'agissait d'un jeune homme violent. C'est en tout cas ce qu'ont conclu les expertises menées à la demande d'un juge pour enfants suite à une mesure d'assistance éducative. Mesure qui devait permettre de protéger le suspect et sa sœur après des soupçons de violence intrafamiliale dont ils auraient pu être victimes. En septembre 2025, cet adolescent était alors décrit comme peu loquace, mais ne présentant jusque-là aucun élément de dangerosité.
Voilà, il n'y a pas de cours hein, ce matin devant ce collège de Sanary-sur-Mer où vous êtes en direct, Pierre Bazin pour RMC. Alors il y a une autre question qui se pose, c'est comment est-ce qu'il a fait pour rentrer dans son collège avec un couteau alors que les contrôles ont été renforcés. Il y en a eu 12 000 des contrôles l'année dernière dans le pays, entre mars et décembre précisément, permettant de saisir 525 armes blanches. C'est ce que disait dans la soirée le ministre de l'Éducation, Édouard Geffray.
Ce que ça dit, c'est que l'interception du couteau ne fait pas l'interception du criminel et quand vous êtes sur un acte imprévisible, isolé comme celui-ci, le risque zéro, clairement, n'existe pas. Donc on fait évidemment notre possible. Mais malheureusement, il peut y avoir des circonstances aussi dramatiques que celle-ci où rien ne laissait présager ce passage à l'acte.
C'est une longue attente qui commence donc au Rassemblement National. On est, vous le savez, au lendemain des réquisitions au procès en appel des assistants parlementaires européens du FN. Le jugement est attendu avant l'été. 4 ans de prison dont un enferme et 5 ans d'inéligibilité sont requis contre Marine Le Pen, sans exécution provisoire cette fois. C'est l'hypothèse d'une candidature à la présidentielle qui s'assombrit ce matin pour elle. Alors que va-t-elle faire? Question posée ce matin sur RMC. Écoutez au porte-parole du RN, Philippe Ballard.
Une élection présidentielle, c'est une énorme machine qu'il faut mettre en marche. Alors, il y a toujours les fameuses 500 signatures, mais il y a l'aspect financier, c'est pas une cagnotte litchi, hein, puis c'est ad hominem. Et puis, il y a les commandes, toute la logistique, les commandes de papier, les affiches, les tracts à commander. Enfin, il faut s'y prendre bien plus tôt. Donc, voilà, Marine Le Pen prendra sa décision donc après ce jugement au mois de juin ou juillet.
On en parlait hier matin, à ce temps-là, sur RMC. Le Sénat a donné un premier feu vert au projet de loi du gouvernement visant à renforcer les pouvoirs des 28 000 policiers municipaux. On s'approche de la pleine mer dans l'ouest, sur la côte atlantique. Des débordements sont attendus là, ce matin, en ce moment, à Bordeaux, à Libourne, en Gironde, département qui est toujours en vigilance orange pour les crues. Hier, c'est à Antibes, dans les Alpes-Maritimes, dans le secteur d'Antibes, que c'était le déluge. Très, très gros orage, inondation de ruelles avec de la grêle. Il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie en seulement une soirée.
Et puis, c'est un peu le début des Jeux Olympiques. Pic d'hiver ce matin.
Oui, les premières épreuves commencent en attendant la cérémonie d'ouverture vendredi. Ce sera à Milan, des matchs de tour préliminaire de curling. Il y aura aussi les entraînements ce matin de la descente en ski alpin chez les messieurs. Alors, il y a une des stars des Jeux, l'américaine Lindsey Vonn. 41 ans, elle fait l'actualité ce matin. Pourquoi ? Parce qu'elle confirme qu'elle participera bien aux Jeux. Malgré une rupture des ligaments croisés antérieurs depuis une chute récemment en Suisse, ça paraît fou, hein, Kevin Morand.
Oui, vendredi dernier, la championne olympique 2010 avait dû être héliportée après sa chute à Crans-Montana. Malgré sa rupture du ligament croisé antérieur et une lésion du ménisque, Lindsey Vonn tient à son rêve olympique.
Mon genou n'est pas enflé et grâce à une genouillère, je suis confiante de pouvoir participer à la compétition dimanche. Je sais quelles étaient mes chances avant, elles ne sont plus les mêmes aujourd'hui, mais tant qu'il y a une chance, j'essaierai.
À 41 ans, l'américaine dit avoir skié hier et refuse de renoncer à l'objectif pour lequel elle était sortie la saison dernière, de sa retraite après 5 ans.
Moi, je pense que ça peut le faire.
Le médecin du sport, Michel Gaillot.
C'est pas du slalom, c'est de la descente. Il y a assez peu de virages, donc on a moins de sollicitations en rotation sur du one-shot. Ça pourrait tenir.
L'ancien snowboarder français, Pierre Voltier, a connu la même blessure 2 mois avant les Jeux en 2014, où il avait remporté la médaille d'or.
C'est clairement une situation que je comprends. Et quand le chirurgien m'a dit « t'as une chance quand même d'aller aux Jeux », j'ai signé, mais tout de suite, le fait que ça paraisse impossible, on veut y aller.
Malgré des blessures qu'elle estime encore plus graves, la skieuse américaine avait décroché une médaille de bronze au championnat du monde en 2019.
Bon, et puis la Coupe de France de football, ça continue. 5/8 de finale encore ce soir, au lendemain des qualifications de Reims et de Marseille. Hein, Marseille qui s'est donné de l'air 3-0 contre Rennes hier soir, en attendant le choc de dimanche contre Paris.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h08 et c'est l'heure de parler économie.
RMC, Apolline Matin.
Le Chypre d'affaires.
Emmanuel Le Chypre, ce matin, vous nous mettez en garde contre ce que l'on poste sur nos réseaux sociaux parce que notre carrière en dépend.
Oui, c'est vraiment un conseil qu'il faut donner à tout le monde et en particulier aux jeunes. Ne postez pas n'importe quoi sur les réseaux sociaux et dites-vous même que poster intelligemment pourrait booster votre carrière. Alors pourquoi je vous dis ça ? Eh bien parce qu'aujourd'hui, 8 recruteurs sur 10 consultent les réseaux sociaux des candidats à l'embauche au cours du processus de recrutement et c'est quasi systématique pour la moitié d'entre eux. C'est ce que montre une étude que vient de publier la plateforme de recrutement Indeed. Tenez-vous bien, 62% des recruteurs ont déjà recalé un candidat en raison de son profil sur les réseaux sociaux.
C'est devenu la norme dans toutes les entreprises ?
Alors, c'est surtout dans les PME que la vérification des réseaux sociaux des candidats est la plus fréquente, peut-être parce qu'il n'y a pas de DRH aussi bien équipé que dans les grands groupes. Cette utilisation des réseaux sociaux est 2 fois plus fréquente que dans les petites entreprises de moins de 10 salariés. Et puis, il y a des différences aussi selon les secteurs. Certaines professions se montrent particulièrement regardantes. Dans les métiers juridiques, c'est systématique 100%. Des CV sont vérifiés et de ce que vous mettez sur les réseaux sociaux. C'est quasi systématique aussi dans l'industrie, l'architecture ou la finance. Il y a des secteurs où c'est moins pratiqué, comme les métiers de l'art, de la culture ou du transport.
Qu'est-ce que les recruteurs veulent apprendre en regardant sur les réseaux sociaux?
Alors d'abord, ils recherchent tout ce qui permet finalement de mieux comprendre la personnalité et les centres d'intérêt du candidat. Ce qui est recherché aussi, c'est de recouper les infos du CV avec celles des réseaux sociaux pour voir s'il n'y a pas des incohérences. Et puis, faut pas se mentir, hein, les recruteurs cherchent aussi à détecter les comportements qu'ils jugent problématiques. Alors, qu'est-ce qui les pousse à rejeter une candidature? Je vous donne les chiffres, c'est important. D'abord et avant tout, les incohérences entre le CV, la candidature et les réseaux sociaux, ça c'est plus de la moitié des rejets. rejet de candidature. Ensuite, les comportements jugés irresponsables qui peuvent avoir des conséquences en entreprise, ça c'est presque la moitié. Les contenus offensants ou discriminatoires, et puis les opinions controversées ou politiques un peu inflammables, on va dire. Ça c'est que 25% à peu près des refus de candidature.
Merci pour les conseils Emmanuel Lechypre. Il est 8h10 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Mathieu, on prend le temps de regarder les messages de nos auditeurs ce matin. Ils réagissent nombreux à ces professeurs qui sont désormais menacés après l'attaque donc de cette prof d'art plastique par son élève de 14 ans.
À Sanary-sur-Mer, l'émotion ce matin, la santé mentale des élèves, la sécurité des établissements. Dans vos messages, comme Romuald qui nous écrit « Encore une prof agressée, on va faire quoi ? On va interroger, le laisser sortir parce qu'il est mineur, qu'on en finisse. Faut de la répression mineure ou pas ?» Le débat s'est porté aussi ce matin sur les portiques de sécurité. Cédric nous écrit « Mettre des portiques devant les écoles, mais où va-t-on ? Ça me révolte. » Bruno nous dit « C'est quoi ces portiques? Mais c'est quoi cette justice? Un couteau en céramique, ça suffirait pour passer. » Voilà ce qu'il écrit. On a aussi parlé des écrans et de leur impact nocif sur les enfants. Ali nous écrit « Je suis désolé, mais il faut arrêter de tout mettre sur le dos des réseaux sociaux. Il faut aussi à un moment, en tant que parent, se remettre en question. » Ce genre de message qui fait réagir aussi Audrey, qui nous dit « J'ai un enfant de 14 ans qui souffre de pathologie psychiatrique. Les gens n'ont aucune idée de ce qu'on vit et de l'enfer des déserts de prise en charge. Mon fils est dangereux et aurait été capable de faire la même chose. C'est dingue de mettre les parents en cause sans savoir. » Voilà ce qu'écrit Audrey ce matin en réaction au débat qu'on a pu avoir aujourd'hui. Vous continuez à réagir si vous le souhaitez. Le WhatsApp RMC 06 12 424 424.
Notez que dans un instant, Arnaud Demanche nous rejoint en direct. Et puis à 8h30, l'invité du face-à-face, ce sera Manuel Bompard sur RMC et BFM TV. Et juste après, comme chaque matin, Nicolas Canteloup et ses imitations face à Canteloup. C'est tous les jours à 8h50 sur RMC. À tout de suite, 8h12.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h13 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Arnaud Demanche qui nous rejoint.
Bonjour tous les amis. Alors ce matin, voilà, je sais, on va encore causer du budget, de l'Iran, de Marine Le Pen. On est en février et il pleut quoi. Moi j'ai envie de vous faire kiffer le matin. Vous voyez ? Alors avant l'actu, je propose de vous emmener tous en boîte de nuit. Pascal, Géraldine, faites chauffer le soutif à paillettes. Vous aussi Mathieu, on y va. Car une boîte portant le nom de Trump va ouvrir à Bourges le 14 février.
Mais non !
Si, c'est vrai, rien de tel pour passer une belle Saint-Valentin à Pau. Un week-end en amoureux dans le Poitou pour inaugurer un nightclub Trump. Hein ? Alain Bauer vous y attend déjà, au bar. Il regarde les couples s'enlacer sur Hôtel California en se disant oh, ça aurait dû être Apolline et moi. Je suis tellement déprimé. Pour me consoler, je vais écrire un livre sur l'Iran. La dictature est terrible, les États-Unis interviendront, les Mollahs, les chiites, le détroit d'Hormuz. Aïe, j'ai fini. Et hop, une invite à la matinale. Et comme ça, il va enfin vous voir.
C'était que ça, j'ai
alors,
pas
les mineurs ne sont pas autorisés à entrer à l'intérieur du Trump, alors que Trump s'autorisait, lui, à rentrer dans des mineurs,
non,
d'après les dossiers Epstein. L'affaire Epstein qui éclabousse la politique française avec Jack Lang qui est dedans. Cette phrase est d'ailleurs tirée d'un verbatim des auditions. Hein. Jack Lang est dedans.
Non.
Mais c'est incroyable, incroyable. Pourquoi lui? Si Jeffrey Epstein voulait s'amuser avec un humain en plastique, il pouvait commander une poupée sur Chine ou passer au BHV. Faut qu'on le fasse venir sur RMC, Jack Lang. Alors les techniciens, faudra juste pas régler les spots trop fort, sinon il va fondre tout en plastique, ce monsieur. Mais j'en reviens toujours pas, Jack Lang. Autant Giscard, c'était évident. On connaît Giscard, très séducteur. Je l'ai dit sur le siège arrière avec l'abbé Pierre. Raymond Barre en slip en cuir avec Mitterrand. Ouf, ouf, ouf. Je suis une souillon. Appelez-moi Dieu. Mets-toi à quatre pattes. Il y a Marchais qui arrive avec un sextoy. J'ai retrouvé des vieilles VHS du bébé de chose.
Mais qu'est-ce que c'est que ce
délire ? Si on a le code, c'est hilarant, Apolline. Hein. Regardez-les, ça n'a pas vieilli. C'est comme Pierre Desproges. Ah, Jean Roucas, qui nous regarde de là-haut. Alors, bref, l'actu, on va en parler quand même. Nous sommes le 4 février 87.
Oui.
Pardon, 2026. Et Marine Le Pen assistait hier au réquisitoire dans son procès en appel pour un détournement de fonds. 5 ans d'inéligibilité requis, 1 an de prison ferme, ça devient compliqué pour 2027. Puis on la sent démotivée là, elle veut plus se battre. Toute sa défense, ça a été « Oui, oui, oh, si j'avais su que je me ferais choper, je l'aurais pas fait, hein, évidemment, je peux plus bête que Balkany. Hein. » Tout le monde m'a dit que vous étiez laxiste aussi, les juges, faudrait savoir. Mais non, bats-toi Marine, résiste, prouve que tu existes pour la justice. Parce que nous, pourquoi on serait condamné à 5 ans ferme de Jordan Bardella, le même qu'elle en moins bien? Ben non, on n'a rien fait, monsieur le juge. Moi, j'ai pas détourné d'argent du Parlement européen. Je suis même pas dans les listes Epstein.
Alors qu'à l'époque, j'avais 12 ans, j'aurais pu. Hein. Oh, non. Mais j'étais occupé à la paroisse à Versailles. Je me suis fait avoir d'ailleurs, hein, parce que d'un côté, il y avait une île dans les Caraïbes, de l'autre, un presbytère pas chauffé dans les Yvelines. Je me suis fait arnaquer. Hein. Vraiment.
Oh, non. Le géant français de l'informatique Capgemini a annoncé la mise en vente de sa filiale américaine qui aide la fameuse police américaine de l'immigration à localiser les migrants.
Et ça a fait scandale. Rendez-vous compte, une société française qui vend des choses ignobles autour du monde. Comme si la vache qui rit ne suffisait pas. Qu'est-ce qu'on a fait au monde, hein ? Les membres du gouvernement ont fait les vierges effarouchées en disant « Que hua ? Que ment ? Nous vendons des services pour nuire à l'être humain, nous les Français ?» Le peuple des Lumières. Les Mirage 2000 qu'on vend au pays du Golfe, c'est pas juste pour faire joli dans les défilés. Hein. Les 5 sous-marins qu'on a vendus au Pakistan, ils sont pas là pour étudier la reproduction des poulpes dans l'océan Indien.
Ah
c'est
bon
pas leur priorité. Ah non, alors que c'est fascinant, Apolline. Fascinant. Le poulpe dominant pointe de manière ityphalique son ectocolyte qui sert d'organe copulateur afin d'introduire les gamètes dans la femelle poule. J'arrête, hein, je vois bien que j'excite tout le monde. Alors la France, c'est le deuxième pays exportateur d'armes dans le monde, notre PIB. Voilà, c'est le luxe et la guerre, c'est veuve Clicquot et veuve tout court. Allez, bing ! La puissance de la formule. C'est pas hilarant, mais à la rédaction de Ciel et Espace, ils ont adoré.
Aujourd'hui, ils ont
adoré. Il a adoré le gars.
L'eurodéputée Marion Maréchal a déclaré qu'elle ne croyait pas que son grand-père, Jean-Marie Le Pen, était antisémite.
Oui, elle a dit... Est-ce que les condamnations sondent le cœur des hommes ? Je ne crois pas. Heureusement qu'elle n'est pas avocate, hein. Monsieur le juge, est-ce que les condamnations de mon client, Francis Holm, sondent réellement son cœur, qui n'est que fragilité et sensibilité, n'est-ce pas, Francis ?
Marion, est-ce que tu buzzes ?
Alors, Jean-Marie Le Pen avait une maison de disques qui éditait des chants nazis et disait que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire. Mais vous connaissez les gens, Apolline, ils voient le mal partout. Voilà. Si ça se trouve, Jean-Marie Le Pen rêvait secrètement d'être investi par LFI aux élections. Mais après, on n'est jamais vraiment objectif quand ça concerne sa famille. Louis Sarkozy pense que son père est innocent. Jésus pensait que sa mère était vierge. Éric Ciotti, son père Jean-Claude Duss, il pensait qu'il allait conclure. On se fait avoir tout le temps. Allez, à demain.
Sur un malentendu,
ça marche.
Merci Arnaud Demanche.
Détendez-vous sur RMC avec Soup de Com, une école du réseau compétences et développement.
Dans un instant, le face-à-face, mais je voudrais d'abord qu'on donne la parole à Manu qui nous appelle de Nîmes. Bonjour Manu, vous vouliez réagir à ce qui s'est passé à Sanary, au collège, ce jeune de 14 ans qui a poignardé sa prof.
Oui, bonjour Apolline, bonjour à toute votre équipe.
Bonjour Manu.
Oui, comme je l'ai dit au standardiste, moi je trouve que maintenant, il y a trois problèmes. Il y a le manque d'éducation des parents qui sont souvent démissionnaires maintenant de nos jours face à nos ados. Ils ont tendance à jeter l'éponge, quoi. L'ensauvagement de la société, les jeunes manquent de respect à tout le monde maintenant, aux profs, aux parents, aux autorités policières. Moi je le vois le week-end, c'est aux arbitres aussi, sur les stades de foot. Plus rien ne leur fait peur, quoi. Maintenant,
c'est pas de limite, quoi. Il y a pas de limite.
Voilà, il y a pas de limite. C'est presque un acte isolé, mais c'est presque une banalité, quoi. Maintenant, ça émeut plus personne. J'ai l'impression que c'est devenu presque courant, quoi. La semaine dernière, c'était une petite jeune qui s'est fait violer, tabasser, brûler
par d'autres jeunes.
La semaine prochaine, ça sera peut-être autre chose. Malheureusement, ça fait partie de notre société maintenant. Et
Manu, vous êtes dans le domaine du foot. Vous disiez, parce que je sais que vous êtes chauffeur poids lourd, mais vous disiez, je voyais le week-end dernier, même les arbitres. C'est-à-dire que vous avez l'impression que désormais, dans quelques terrains que ce soit, en quelque sorte, et y compris dans le sport, on ne respecte pas l'autorité sur l'arbitre. L'arbitre, c'est un peu le prof, quoi, mais sur le terrain.
Voilà, ouais. On ne le respecte plus. On lui parle comme si c'était notre collègue. Les parents autour, ils font que, on va dire... faire grossir la chose, parce que ça envenime, il y a de l'animosité autour du stade.
Vous êtes parent vous-même, Manu ?
Oui, d'un petit garçon de 12 ans, ouais.
Qui fait du foot ?
Qui fait du foot, ouais, et je le vois tous les week-ends. Tous les week-ends, l'arbitre, il est conspué, on ne respecte jamais sa décision. Alors, est-ce que c'est les professionnels qui devraient montrer l'exemple à ne pas parler, ou être comme dans le rugby à savoir respecter une décision, je sais pas, mais maintenant ça devient une banalité.
Vous êtes inquiet globalement, Manu.
Voilà, tout à fait. Je suis inquiet pour mon enfant et pour les autres aussi, parce que les générations qui arrivent, il n'y a plus de limites.
Merci, merci d'avoir réagi ce matin, Manu. Manu qui est chauffeur poids lourd à Nîmes. Il est 8h22 sur RMC et BFM TV. Dans un instant, mon invité, c'est le patron de la France Insoumise, lui-même député des Bouches-du-Rhône, Manuel Bompard. Ça se passe sur RMC et BFM TV. À tout de suite. Merci d'écouter RMC, il est 8h23.
RMC, Apolline Matin.
Et le rappel des titres, Élise Dangean.
On en sait plus ce matin sur le profil de l'adolescent qui a poignardé son enseignante hier à Sanary-sur-Marne, sur-mer, dans le Var. Un élève de 3e qui avait manifestement des griefs contre sa prof d'art plastique. Elle se trouve dans un état stable, mais son pronostic vital est toujours engagé ce matin. Pour l'heure, les motifs religieux et politiques semblent écartés. La porte de la présidentielle se referme un peu plus sur Marine Le Pen après les réquisitions prononcées hier au procès en appel des assistants parlementaires du Front National. 4 ans de prison, dont 3 avec sursis, et 5 ans d'inéligibilité, mais cette fois sans exécution immédiate. Des trombes d'eau se sont abattues sur la Côte d'Azur hier soir. 86 mm à Antibes, soit l'équivalent d'un mois de pluie tombé en seulement quelques heures. Conséquence d'un orage stationnaire. En football, l'Olympique de Marseille pense ses plaies et se rassure un peu en Coupe de France avec une victoire 3-0 face à Rennes hier soir et une qualification pour les quarts de finale. On revient sur la météo avec la Gironde, toujours en vigilance orange au cru. Une nouvelle perturbation arrive par l'Atlantique aujourd'hui. Dans le même temps, on a encore des remontées de Méditerranée. En journée, il pleuvra de la Bretagne à la Méditerranée avec du vent. Ailleurs, de l'Auvergne aux Alpes et au nord du pays, ce sera calme avec un soleil voilé. Peu de changements côté température.
La météo sur RMC avec Penny Lane. L'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
C'était le rappel des titres d'Élise Dangean. Dans un instant, mon invité dans le face-à-face, c'est Manuel Bompard. Manuel Bompard, le patron de la France Insoumise. Le budget est passé et maintenant, on fait quoi? Et puis Manuel Bompard, je vais évidemment interroger aussi sur les réquisitions à l'encontre de Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon, lors de la dernière condamnation, avait estimé que ça n'était pas au juge, mais au peuple de décider du sort de Marine Le Pen. Le pense-t-il toujours? Réponse de Manuel Bompard dans un instant.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 8h28 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Manuel Bompard.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le coordinateur de la France Insoumise, le patron quoi. Et vous êtes également député la France Insoumise des Bouches-du-Rhône. Nombreuses questions à vous poser sur l'état de la France, le budget qui a finalement été adopté malgré vos motions de censure. Mais une question d'abord sur les réquisitions à l'encontre de Marine Le Pen hier. Une peine de 5 ans d'inéligibilité, 4 ans d'emprisonnement, dont 3 avec sursis. La possibilité d'aménager la partie ferme sous bracelet et électronique, 100 000 euros d'amende, voilà ce qui a été réclamé hier par le parquet général. À l'époque de la première condamnation, Jean-Luc Mélenchon avait déclaré que la décision de destituer un élu devait revenir au peuple, sous-entendu pas au juge. Le dites-vous encore aujourd'hui?
Ce que nous disions à l'époque du procès en première lecture, en quelque sorte, en première instance, pardon, première lecture c'est pour les textes, c'est que une décision aussi grave que celle qui consiste à déclarer une potentielle candidate à l'élection présidentielle inéligible, de notre point de vue, ne pouvait pas être prise sans que l'ensemble des voies de recours judiciaire puissent être invoquées. Là, en l'occurrence, Madame Le Pen a eu quand même la possibilité d'avoir un procès en appel qui se tient avant l'élection présidentielle. Si elle n'est pas satisfaite des modalités du jugement, elle a le pouvoir de se pourvoir en cassation, comme on dit. On sait d'ores et déjà, en tout cas c'est des informations qu'on a eues, que cette éventuelle instruction en cassation aurait lieu aussi avant l'élection présidentielle.
À 2 mois.
C'est vrai, vous avez raison. Mais voilà, il me semble que du point de vue de ce qu'on pouvait en quelque sorte être sur les éléments sur lesquels on pouvait être prudent après le jugement en première instance, nécessitant la possibilité d'un recours, il me semble que Madame Le Pen, d'un certain point de vue, peut être rassurée du fait qu'elle a eu le droit à ces différentes voies de recours.
Vous estimez que la justice, là, ne prend pas la place du peuple?
Bien sûr que quand vous avez une peine d'inéligibilité, ça empêche une candidate ou un candidat à une élection de pouvoir se présenter. Et moi, je préfère toujours que ça soit le peuple qui dise son dernier mot. Mais là, en l'occurrence, on parle quand même de faits qui sont des faits extrêmement graves. On parle de détournement qui se chiffre à 4 millions d'euros. C'est des sommes qui sont des sommes considérables. Moi, je suis très attaché au fait que les voies de recours puissent être engagées. Et là, il me semble que les voies de recours ont été engagées.
Les voies de recours engagées. La question de l'inéligibilité avec une application immédiate, ce qu'on appelle exécution provisoire, est-ce que vous considérez, au-delà de la question de Marine Le Pen, qu'il ne faut pas que ça existe? C'est-à-dire, est-ce que vous considérez que cet outil, qui en effet fait que certains politiques pourraient ne pas pouvoir se présenter de manière immédiate, malgré un appel ou un pourvoi en cassation. Est-ce que ça, vous considérez qu'il faut supprimer des textes?
Bah, ça mérite débat, parce que je sais que l'exécution provisoire, elle est parfois mise en place sur certaines peines dans lesquelles on considère que même si il y a une possibilité de faire un appel, c'est dangereux pour la société que la personne puisse rester en liberté. Mais il faut toujours proportionner ce type d'éléments, parce que le principe de la justice, c'est qu'une fois qu'on a été jugé une fois, on doit pouvoir faire un appel. C'est comme ça qu'on peut être sûr à la fin, en quelque sorte, que la décision judiciaire, elle s'appuie, elle a été prise par des personnes différentes. C'est quelque chose de très important. Donc moi, je trouve que la question de l'exécution provisoire, elle doit être vraiment réduite à des cas très particuliers, qui sont des cas où il y a une
gravité. De danger imminent.
Il me semble. En tout cas, je trouve que ça mérite vraiment débat. Mais là, en l'occurrence, je fais remarquer quand même que Mme Le Pen et le Rassemblement National a beaucoup critiqué la décision, y compris dans des termes qui étaient vraiment des termes extrêmement agressifs et violents après le jugement en première instance. À l'époque, ils disaient c'est scandaleux qu'il y ait eu l'exécution provisoire, mais là, en l'occurrence, puisqu'il y a le jugement en appel, je considère que leur argument, si vous voulez, il est tombé.
Cet argument-là, pour vous, est tombé. Manuel Bompard, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, s'adressant à vous et au RN d'ailleurs, a dit « Vous aurez devant l'histoire à en répondre à propos du fait que vous avez tenté de faire, de ne pas faire aboutir ce budget. » L'avez-vous seulement lu, ce budget? Vous a même demandé, Sébastien.
Ah oui, je l'ai lu, moi. Moi, je l'ai lu. Et donc, je sais que dans ce budget, il y a, par exemple, 4000 postes d'enseignants qui sont supprimés. J'ai lu ce budget, donc je sais qu'il y a 3000 postes de surveillants qui sont supprimés. J'ai lu ce budget, donc je sais que, par exemple, on va supprimer les aides pour le logement pour les étudiants étrangers. J'ai lu ce budget, donc je sais, par exemple, qu'à l'intérieur, on va supprimer un crédit d'impôt pour les personnes âgées quand elles ont besoin de faire des travaux, vous savez, pour pouvoir rester à domicile, quand on a besoin d'adapter sa douche, par exemple, parce qu'on commence à être âgé et qu'on a un problème pour utiliser sa salle de bain. Vous voyez, moi, j'ai lu ce budget, que je sais que, par exemple, on va y retirer la prime de Noël pour une partie des personnes qui sont allocataires du RSA. Et contrairement à ce que dit le gouvernement, qui
dit que c'est pas vrai.
Eh ben, regardez dans les textes et regardez dans les amendements et dites-moi pourquoi le montant qui est alloué à la prime de Noël pour les allocataires du RSA a bien été diminué par deux. Vous voyez, moi je l'ai lu, peut-être, je sais pas si monsieur Lecornu l'a lu, mais moi je l'ai lu. Je l'ai lu précisément. Et je sais que ce budget, il va faire beaucoup de mal pour notre pays. Je l'ai lu aussi, pardon, je veux pas faire toute la liste, qu'il y a beaucoup de choses dans le budget.
Mais allez-y, c'est le moment.
Mais je sais que contrairement à ce qu'a dit monsieur Lecornu, qui a menti sur ce sujet, le fonds vert, c'est-à-dire les fonds qui sont alloués aux collectivités locales pour des projets de transition écologique, ils baissent par rapport à l'année dernière. Et ce qu'on appelle les crédits alloués à la rénovation, MaPrimeRénov, le dispositif qui est alloué pour les gens qui organisent la rénovation thermique ou énergétique de leur bâtiment, il baisse par rapport à l'année dernière. Vous voyez, monsieur Lecornu, je sais pas, peut-être que lui, il l'a bien lu, mais c'est plus grave s'il l'a bien lu, parce que non seulement il l'a lu et après il a menti.
Est-ce que vous estimez que le Parti Socialiste s'est fait avoir?
Ah, mais évidemment. Écoutez, le Parti Socialiste, au mois de septembre, madame de Malherbe, je vous invite à faire ce travail. Ils ont présenté leur contre-budget. Et forcément, au début d'une discussion budgétaire, quand vous présentez votre compte budget, bah, c'est une base de négociation. Il y avait 20 mesures qui concernaient soit des nouvelles recettes, soit des investissements que le Parti Socialiste considérait utiles. Est-ce que vous savez, madame de Malherbe, combien dans le budget de monsieur Lecornu, il y a parmi ces 20 mesures? Je vais vous répondre. Vous savez combien? Zéro. Voilà. Il y a
donc
zéro.
Ils n'ont obtenu aucune des mesures de leur contre-budget.
Pas les mesures de nouvelles recettes ou d'investissements indispensables, type les transports en commun, la transition écologique, que eux considéraient comme étant leur priorité.
Ils ont accepté ce budget,
bah, posez-leur la question. Moi, je suis pas parti socialiste, mais manifestement, ils avaient tellement peur que des élections législatives puissent avoir lieu qu'ils ont été prêts à tout accepter.
Mais il y a des points sur lesquels ils sont extrêmement fiers d'avoir obtenu des choses. Un des derniers, c'est le repas à 1 euro pour les étudiants.
Alors, vous savez, je veux dire deux choses sur ça. D'abord, l'année dernière...
C'est bien dans le budget, ça.
Oui. Attendez, c'est bien dans le budget, mais on va rentrer dans les détails. Vous savez, dans le budget, il faut regarder... C'est comme les contrats d'assurance. Il faut regarder
les
astérix. D'abord, c'est une proposition qui a été votée l'année dernière à l'Assemblée nationale. À l'unanimité, il y a eu juste les macronistes qui se sont abstenus. Donc c'est un peu gonflé d'expliquer que maintenant, il faut remercier le gouvernement de mettre en place des choses qui sont votées à l'Assemblée nationale. Mais surtout, moi, en tant que député, depuis qu'il y a eu cette annonce, je reçois des mails, des crousses, qui disent, attendez, on a un problème. C'est qu'il y a eu cette annonce qui a été faite, mais les moyens qui nous sont alloués sont en baisse par rapport à l'année précédente. Donc on voit pas comment on va pouvoir la mettre en œuvre, cette mesure.
Donc en fait, on leur dit qu'ils auront ça, mais ils n'ont pas les sous
qu'ils vont... Je ne sais pas comment ils vont faire, ou alors ils vont devoir couper ailleurs. Parce que les budgets de la vie étudiante, ils baissent. Donc vous voyez, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entourloupes. Et moi, je pense que les entourloupes, ça suffit maintenant. Et que le Parti Socialiste assume une très lourde responsabilité en maintenant le gouvernement au pouvoir, en laissant passer ce budget qui est, je crois, avoir donné un certain nombre d'éléments qui montrent à quel point il est problématique. Et puis en laissant un gouvernement en place qui met une politique et une politique que l'on combat. D'ailleurs, vu que le PS avait fait un communiqué contre les suppressions de 4000 postes d'enseignants. Ah bah très bien, mais si vous êtes contre, il fallait censurer le gouvernement, c'est plus simple, ça évite que ça
ait lieu.
Donc il va y avoir des élections municipales le 15 et le 22 mars, et ça va être aussi l'occasion de sanctionner toutes celles et ceux qui ont laissé passer ce budget.
J'y viens au municipal dans un instant, mais une question aussi sur les documents de l'affaire Epstein. Je reçois dans un peu plus d'une demi-heure sur BFM TV Jack Lang, qui dit assumer les liens établis avec Jeffrey Epstein, lui-même et sa fille. Vous demandez une commission d'enquête?
Oui, bah je pense que c'est nécessaire. C'est une proposition que notre groupe a formulée. Je pense que le mieux, c'est qu'elle soit transpartisane. Donc nous, on propose à co-signature aux autres parlementaires, parce que les révélations, et notamment les dernières révélations, les documents qui ont été révélés, bah ils posent un certain nombre de questions qui sont des questions légitimes. Bah d'abord, il y a un certain nombre de personnalités qui sont citées à l'intérieur. Alors moi, je suis pas juge, je suis pas procureur.
Le seul pour lequel, alors il y a des millions,
il faut qu'il y ait des enquêtes.
Il y a des millions de documents, et donc effectivement, les enquêtes sont toujours en cours, mais le seul, semble-t-il pour l'instant, qui ait reçu de l'argent et qui ait eu des liens aussi avérés, c'est Jack Lang. C'est des noms qui sont cités, mais parfois même dans des articles
partagés
sur les mails.
Je pense qu'il faut qu'il y ait un travail.
En tout cas, vous estimez que cette commission d'enquête doit pouvoir faire ce travail.
Mais bien sûr, pour que la vérité puisse être faite. Et puis je rappelle quand même que il y a en quelque sorte deux volets. D'abord, il y a l'affaire sordide, ignoble
de trafic de mineurs,
de crimes sexuels, de pédocriminalité. Et il y a donc des victimes et potentiellement des victimes en France. Et donc, il est quand même légitime qu'on rende justice à ces éventuelles
Jack
victimes.
Jack Lang répondra tout à l'heure, mais il dit lui-même, j'ai souvent vu Jeffrey Epstein accompagné, dit-il, de jolies femmes. Il dit, elle n'avait pas l'air mineure, mais en effet, au minimum, il avait cette... Et ça, c'était dans Paris. Lorsqu'il l'a vu à Paris.
Donc, c'est quand même la moindre des choses de rendre justice à des personnes qui ont été victimes. Et puis, il y a un deuxième volet qui est évidemment pas de même nature, mais qui pose question aussi, qui est des noms qui sont cités, peut-être des risques d'ingérence étrangère dans des processus électoraux. Et ça aussi, on doit pouvoir faire une enquête sur ce sujet. Et je veux dire deux choses, parce que parfois, quand on dit ça, on me dit, oui, mais le complotisme. Bah, si on veut éviter qu'il y ait du complotisme, il faut avoir des procédures qui permettent de faire la vérité. Et puis, deuxième chose, là où je mets en garde, je lis sur les réseaux sociaux des commentaires antisémites avec des formules issues d'une vision de la société du type le complot, hein, vous voyez ce que je veux dire
De quoi, le complot judéo-maçonnique?
Voilà, des gens qui disent des choses comme ça, donc je leur dis, attention, pas ça. On peut faire la vérité sur ce qui s'est passé, mais c'est pas en raison de la confession ou de l'origine d'une personne. Je pense que c'est important de le dire,
qui,
Madame Malherbe. Je vois des commentaires sur les réseaux sociaux.
Peut-être sur les fils que vous suivez.
Sur les fils que moi je suis. Enfin, si vous ignorez qu'il y a autour de ces révélations de documents de l'affaire Epstein des gens qui en profitent pour faire valoir une vision de la société antisémite, c'est qu'on n'a pas regardé la même chose. Donc je me permets de mettre en garde sur ce sujet. Ça me paraît important de le faire.
Tout à fait, Manuel Montpart. Les municipales, vous le disiez. Alors, quand on interroge les Français, leur priorité, désormais, c'était jusqu'à présent le pouvoir d'achat, c'est désormais la sécurité. Sur ce point-là, qu'est-ce que vos candidats apportent comme réponse?
Une rupture avec la doctrine qui est celle qui est à l'œuvre aujourd'hui dans l'essentiel des communes et qui ne fonctionne pas. Madame de Malherbe, est-ce que vous savez quelles sont les deux villes qui sont les plus vidéosurveillées en France? Je vais répondre.
Je crois qu'il y a Nice.
C'est Nice la première. Et c'est Nîmes la deuxième. À Nice, il y a eu ces dernières années une augmentation de 70% des délits liés au trafic de drogue. C'est à peu près dans les mêmes proportions à Nîmes. Donc moi, je veux bien qu'on me fasse croire que sont ces recettes-là qui fonctionnent, mais je le pense pas du tout. Donc nous, ce que nous défendons, c'est évidemment qu'il faut prendre en compte cette question de la sécurité. Non, je dis pas de vidéosurveillance, ça veut dire on fait un moratoire et on met les moyens dans de la présence humaine, dans des effectifs de prévention, dans des effectifs qui garantissent la tranquillité publique. À chaque fois que vous mettez 4 caméras, vous pouvez mettre un effectif humain. Et ben moi, je préfère mettre un effectif humain. Et j'assume sur ce sujet d'être en rupture avec les positions qui sont défendues par un certain nombre de municipalités, pas pour des raisons idéologiques, mais parce que ça ne fonctionne pas.
Vous avez partagé totalement votre point de vue lorsqu'ils ont été élus, je pense au maire de Bordeaux ou au maire de Lyon, ont aujourd'hui évolué sur cette question-là.
Et ben je pense qu'ils se trompent, je pense qu'ils font une erreur et une maladresse. Alors évidemment, il faut pas faire n'importe quoi, je vous dis pas qu'au lendemain vous allez tout supprimer, mais il faut faire monter en puissance un travail de prévention, un travail de tranquillité, un travail de présence sur le terrain, faire en sorte que dans nos quartiers, dans toutes nos villes, il y ait des services publics, il y ait des commerces, qu'il y ait de la vie. C'est comme ça qu'on garantit la sécurité et la tranquillité publique. Et donc, nous, on assume d'avoir une vision, qui est une vision différente de celle des autres, mais je pense qu'elle serait plus efficace.
À partir de quelle nuance de couleur de peau, noire ou marron, ou de je ne sais quelle couleur, vous considérez que c'est OK d'être élu?
Quelle que soit sa couleur de peau, c'est OK d'être élu. Je comprends pas pourquoi vous posez cette question.
Je pose cette question parce que j'ai lu les propos de différents candidats, oui, la France Insoumise, qui disent qu'il faut élire un racisé parce qu'il faut désormais représenter le réel peuple de France qui doit reprendre le pouvoir. Je lis les propos de Daniel Obono qui dit à propos de la fête de l'Huma que c'est une fête de blancs et que d'ailleurs finalement ça ressemble à des amphis de la France Insoumise et ça lui fait honte.
Écoutez, Apolline de Malherbe, il y a une question qui nous est posée. Est-ce qu'on considère aujourd'hui que notre classe politique, elle est représentative de la population française dans toutes ses dimensions? Ces dimensions sociales, ces dimensions de genre, ces dimensions d'origine. Est-ce qu'on considère ça? Je pense pas. Quand vous savez que, de mémoire, il y a à peu près 80% des maires en France qui sont des hommes et seulement 20% qui sont des femmes, alors que 50% de la population sont des femmes. Attendez.
Mais de quelle couleur êtes-vous?
Mais moi, je suis blanc, il n'y a pas de blanc de couleur de peau.
Vous êtes le patron de la France Insoumise. Avez-vous déjà songé à laisser votre place?
Mais attendez, Apolline de Malherbe, s'il vous plaît, je vais vous dire les choses.
Non, mais je vous pose la question. Est-ce que vous avez, lorsque vous avez lu ça,
vous devriez pas venir.
Bon.
Vous devriez pas négliger un problème qui pose un problème.
Je ne néglige pas ce problème.
Un problème de rapport politique. Moi, la question qui est posée, c'est pas de remplacer des gens.
La couleur de peau qui justifie.
Mais c'est pas la couleur de peau qui justifie.
Qui est aujourd'hui l'argument principal pour faire élire un maire ou un député ou quoi, je m'inquiéterais à votre place.
Ouais, ben moi je m'inquiéterais à votre place si vous avez compris ça de mon discours, parce que je crois
pas du vôtre, mais d'un certain nombre de vos membres,
parce que je crois que depuis tout à l'heure on a parlé de fond, donc c'est d'abord quand on vote aux élections municipales, on vote d'abord pour un programme, pour des propositions, ensuite avoir comme souci et comme préoccupation, et oui moi j'ai ce souci et cette préoccupation de faire en sorte que nos élus soient davantage représentatifs de la population française. Je vois pas pourquoi ça devrait déclencher des cris d'orfraie.
Vous êtes élu de Marseille.
Oui, je suis élu de Marseille. Et moi, je suis très fier.
Vous êtes élu de Marseille.
Oui.
Vous êtes né, je crois, dans la Loire.
Oui.
Vous avez grandi dans la Drôme.
Oui.
Quelle est votre légitimité en termes de représentation? Puisque désormais, pour la représentation, il faut venir d'un terreau.
Peut-être que j'ai été élu la dernière fois en 2024 au premier tour de l'élection législative avec plus de 70% des voix.
Mais êtes-vous
peut-être que ça me donne une certaine légitimité, Madame de Malherbe. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, très bien. Mais je suis pas en train de vous dire que du jour au lendemain, il va falloir remplacer tous les élus. C'est pas ce que je vous dis. Je vous dis que il me semble que c'est légitime d'avoir une importance particulière qui est attachée. Nous, c'est ce qu'on fait à la France Insoumise, je l'assume, à faire en sorte d'essayer de présenter des candidates et des candidats qui soient davantage représentatifs de la population française.
Philosophique, Manuel
Oui,
Bompard.
Alors moi aussi, c'est très philosophique.
Tout à fait. Lorsque Rima Hassan dit cette époque du porte-parole est révolue, c'est-à-dire désormais, vous ne parlerez pas en notre nom, dit-elle. Les porte-paroles ne peuvent plus être des voix et des visages qui ne soient pas incarnés. Encore une fois, je vous pose la question. Combien de temps allez-vous rester à la tête de la France Insoumise?
Mais c'est d'abord les militantes et les militants de la France Insoumise, c'est ça qui le décident. Mais c'est pas le sujet. Je veux dire, Rima Hassan, elle a pas remis en cause.
C'est pas eux qui le décident, parce qu'il se trouve qu'il n'y a pas de vote.
Mais si, il y a un vote. Mais bon, on va pas rentrer dans le détail si vous voulez. Mais Rima Hassan, elle a pas remis en cause, par exemple, ma présence. Elle a remis en cause, et elle a remis en cause le fait que la classe politique aujourd'hui est pas suffisamment représentative de la population telle qu'elle est.
La question, c'est pouvez-vous parler, vous voulez faire en sorte qu'il y ait une forme de peur morale sur ce sujet.
Mais
ce qui m'intéresse, c'est pouvez-vous parler désormais en leur nom.
Mais je parle au nom.
On va se mettre d'accord.
Oui.
La représentation politique, c'est l'idée justement, précisément, qu'à un moment, on considère qu'un élu nous représente tous, qu'on ait voté pour lui ou pas, qu'on partage ses idées ou pas. Mais désormais, la question, lorsque Sébastien Delogu dit désormais, il faut élire un racisé parce que le peuple réel de France doit reprendre le pouvoir. Lorsque Daniel Obono dit
Vous les avez déjà dites une fois. Mais non, mais parce que le problème, c'est que vous prenez des propos, vous les sortez d'un contexte.
Non, pas du tout.
Et vous essayez de leur faire dire autre chose. Attendez, Apolline de Malherbe, ce que je dis, c'est très simple. Ce que je dis, c'est que nos élus sont pas suffisamment représentatifs de la population et qu'ils doivent l'être davantage. avantage. Voilà. Après, moi, quand je suis élu, je porte la parole de l'ensemble des électrices et des électeurs de ma circonscription, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit d'ailleurs, y compris leur opinion politique.
Mais qu'est-ce qui est plus important?
Même celles et ceux qui n'ont pas voté pour moi.
Ce qu'on est de naissance ou ce que l'on devient?
Mais vous pouvez comprendre, vous devez pouvoir comprendre, je pense, que quand on est français, qu'on
doit-on
a...
Doit-on être réduit à notre,
non, on est...
à notre origine,
non,
à
est...
notre couleur de peau,
on pas
à notre
réduit
religion?
À ça. On n'est pas réduit à ça, mais quand la classe politique apparaît comme étant complètement décalée par rapport à la
mais
société dans
la
laquelle
liberté,
on est, à la je crois en la liberté.
À la liberté de penser contre ce que l'on est ou ce qu'on
mais
est,
évidemment,
ou ce qu'étaient nos parents.
Mais comprenez, mais tout à fait, Pauline Nolin, mais comprenez aussi qu'il y a toute une partie de la population française aujourd'hui qui se sent pas représentée par la classe politique telle qu'elle est aujourd'hui. Et si vous voulez répondre à cette fracture politique et démocratique, vous devez aussi travailler à faire en sorte que la classe politique soit davantage représentative. Par exemple, regardez, il n'y a pas suffisamment d'ouvriers à l'Assemblée nationale, il n'y a pas suffisamment d'employés à l'Assemblée nationale, et pourtant je ne considère pas qu'un ouvrier va représenter que les ouvriers de sa circonscription. Donc évidemment
Monsieur
que Bilongo c'est un sujet,
été,
une préoccupation
savez,
qui est décisive pour
moi. Sur une plateforme qui s'appelle la Librairie Africaine, j'ai écouté plusieurs de leurs podcasts.
Qui, pardon?
Et votre Monsieur Bilongo, qui est l'un de vos députés, qui est lui-même candidat.
Oui.
Et la Librairie Africaine avait ensuite, la semaine d'après, invité une femme qui disait, elle était de couleur noire, et elle disait faire des bébés avec un blanc, ça fait des métis, et au fur et à mesure, ça élimine les noirs. Bon, ça lui posait problème.
Franchement, Madame Noël, vous n'avez pas à m'interroger sur. On est allé quelque part,
non, mais c'est
une semaine plus tard, il y a quelqu'un d'autre. Parce que, excusez-moi, mais je suis à votre micro. Avant, vous avez invité un certain nombre d'invités avec qui ont tenu des propos qui me dérangent beaucoup.
Quand on commence à calculer à partir de quelle couleur de peau on est représenté.
Mais franchement, c'est bizarre que vous disiez ça.
Pourquoi, justement? Je pense au contraire à la liberté.
Oui, mais je vais vous dire, par exemple, je pense que vous êtes. Je me permets, hein.
Allez-y.
Je pense que, par exemple, vous trouvez bien qu'il y ait eu la parité en politique et qu'il y ait maintenant davantage de femmes que d'hommes. Et vous auriez pu m'utiliser les mêmes arguments il y a quelques années dans ces débats-là.
Quand sachez
il y
avait que j'ai toujours été justement pour la liberté de chacun.
Oui, mais non,
mais en l'occurrence, mais c'est pas.
Mais c'est pas une. Mais c'est pas. Non, mais je sais, mais c'est pas une remise en cause de la liberté de chacun de considérer que parfois il y a des mécanismes de domination qui existent dans la société qui font que, par exemple, les femmes sont moins engagées ou se présentent moins à une élection que les personnes issues de l'immigration.
Mais
sont
la question
moins,
que je vous pose, c'est qu'en défendant cela, en tirez-vous les conséquences pour vous-même?
Mais moi, j'en tire les conséquences tous les jours. Vous allez voir pour nos candidates ou nos candidats aux élections municipales où on fait un travail, et c'est un travail qui se fait de manière consciente et qui remet en cause la liberté de personne pour faire en sorte que nos candidates et nos candidats soient davantage représentatifs de la population.
Manuel Bonfart, coordinateur.
Je trouve que c'est un bon débat, c'est un débat intéressant.
Et c'est un débat philosophique que je suis très heureuse d'avoir eu avec vous.
Et je pense qu'on a pu peut-être le préciser.
Vous êtes député
des Bouches-du-Rhône,
même si vous n'étiez pas. Non, parce que là,
c'est la dernière ligne droite pour s'inscrire sur les listes électorales aujourd'hui. Alors inscrivez-vous. Voilà.
Vous êtes bien sûr RMC et BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
8h50, face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisité par Nicolas Canteloup. Manuel Bompard était mon invité ce matin. Bruno Le Maire, vous vouliez réagir à cette interview?
Madame de Malherbe, j'ai écouté attentivement Manuel Bompard et au risque de vous surprendre, je suis totalement en accord avec lui. Hein. Bien sûr qu'il fallait faire tomber ce gouvernement, bien sûr qu'il fallait faire tomber, bien sûr que ce budget est nul. Il faut remettre à l'économie des gens qui n'ont pas peur de la dépense publique comme je l'ai été. Voilà, moi aussi je suis un rebelle, un insoumis, je peux vous le dire. Hein. Macron me déteste parce que je dépense des sous. Mais cher Manuel Bompard, je lui dis, si vous avez une carte LFI pour moi, je prends.
Oh, enfin, c'est quand même un peu inattendu comme rapprochement, Bruno Le Maire.
Mais écoutez, on a le même combat avec M. Bompard. Hein, lui, c'est les paroles, moi c'est les actes, après tout. Avec mes 3 000 milliards de dettes, hein, j'ai quand même failli couler la Macronie à moi tout seul. C'est son rêve, Manuel Bompard. Alors, Manuel Bompard, je lui dis, vous et moi, nous ferions un duo formidable et complémentaire. Hein. Il est mathématicien. Moi, moi, il sait manier les chiffres. Hein. Moi, les chiffres, c'est pas mon truc. Hein. Moi, je suis plus un littéraire, vous
oui,
le savez. Je peux vous l'avouer parce que maintenant, je suis plus dans le game. Hein. Quand j'étais ministre, je peux le dire, je passais plus de temps à écrire mes bouquins qu'à bosser mes budgets.
Merci Bruno Le Maire. Hier, à son procès, Marine Le Pen a donc dû affronter les réquisitoires du procureur, des réquisitoires d'une sévérité exemplaire.
C'est formidable. Formidable, ça fait plus de 20 ans, Madame Malherbe, et que je suis en politique, que je réclame à corps et à cri et des peines exemplaires, plus de sévérité de la justice. Personne, jamais personne ne m'a jamais écouté. Et là, comme par hasard, c'est moi qui suis dans le box des accusés, et là, la justice découvre la sévérité. Merci, mesdames, messieurs les juges.
Bon, en tout cas, c'est fichu pour l'Élysée, là.
Oui, pour... Attendez, quoi, comment j'ai foutu pour lui? Attendez, pour 2027, je suis d'accord avec vous. Mais attendez, il y a 2032.
Ah, oui, c'est vrai.
Alors, Jordan, il prend le job en 2027, mais maman reprend la boutique en 2032.
Ah, voilà. D'accord. Quoi, d'accord.
Pourquoi vous me regardez comme ça? Je suis trop vieille, c'est ça?
Non, je...
Non, mais écoutez, non, j'ai... écoutez, en 2032, j'aurai 63 ans, voilà. Voilà. Oui, mais 63 ans, mais en politique, excusez-moi, on est à peine pucelle à 63 ans. Voilà. On n'a même pas encore l'âge pour rentrer au Sénat.
Merci, madame Le Pen. À cause de problèmes de trésorerie, certains cadres des Républicains estiment qu'il sera très, très difficile de financer une campagne présidentielle en 2027. Nicolas Sarkozy, bonjour.
Bonjour, Mme Malherbe. Je ne comprends pas.
Non ?
Déjà, une campagne présidentielle, ce n'est pas de l'argent. Avant tout, c'est des idées. Et une fois que les gens y croient à tout qu'est-ce que vous leur, à tout qu'est-ce que vous leur avez raconté, après, ils adhésionnent à votre projet.
Ah oui ?
Et là, il y a de l'argent, parce que quand ils adhésionnent, ils cotisationnent.
Ah oui.
Ça va de pair, adhésement, cotisement.
Enfin, il faut quand même beaucoup d'argent pour financer une campagne.
Mais écoutez, Mme Pujadas, n'essayez pas de m'amener sur le terrain. Je vois très bien le terrain glissant sur lequel vous voulez m'embourber. Moi, pour que les juges, pour tout ça, pour que les juges entendent les aveux que je n'ai pas faits. Moi, mon argent, je le gagne honnêtement, grâce aux idées que j'ai eues, que j'ai à vendre. Hein. Et si vous ne me croyez pas, ben, vous pouvez acheter mon bouquin aux éditions Fuyard. Hein. 200 pages que j'ai écrites en 10 jours enfermées entre 4 murs avec vue sur les barbelés. Pour vous dire que c'était dur. Et si les Républicains veulent gagner de l'argent, ben c'est tout simple, ils n'ont qu'à écrire des livres en prison. En plus, dans ma famille politique, c'est pas les condamnés qui manquent. Hein. Il y a largement de quoi faire du pognon. Hein.
Merci, M. Sarkozy. On revient à présent sur les réquisitions donc au procès de Marine Le Pen avec Jean-Louis Borloo. Bonjour, Jean-Louis Borloo. Vous êtes un avocat, d'ailleurs.
Hein. Oui, mais c'est quoi ce bordel de jugement, Mme Le Pen? Mais il y a que des intelligents dans cette table, mais on n'y comprend que dalle. T'ouvres une chaîne info, une radio, la vote, une note, on s'en foutu. Si t'as pas un doctorat en droit, t'es condamné. Tu comprends rien, t'es condamné à regarder Gulli, voilà. Même moi, pourtant, je suis avocat, j'ai le diplôme. Bon, je sais pas où j'ai foutu, mais enfin, bon, bref. Hein, mais je suis paumé. Mais il y a des cours, on ne comprend rien au jugement. Il y a des cours d'appel, des cours de cassation, des cours européennes d'appel, de cassation, des droits de l'homme européens. Il y a de la prison ferme, du sursis ferme sous bracelet, des exécutions immédiates. Des exécutions de différées, des exécutions. Il dort déjà, Texer. Des exécutions provisoirement immédiates à effet différé. Mais c'est imbitable. Pardon, on comprend rien. Mais pardon, mais les faut me simplifier ça, les enfants. Moi, depuis le temps, moi, quand j'étais avocat de Bernard Tapie, Marshall, il le sait, j'étais avocat de Bernard Tapie. Moi, c'était simple à l'époque. Tu payais 200 000 balles, t'allais 6 mois en cabane. C'était clair, voilà, fin du jugement. Aujourd'hui, c'est tout juste si on dit pas. Si le juge a Mercure en Verseau, ce sera applicable que pour les prévenus Capricorne du deuxième décan. Non, mais
c'est sûr.
Il y a juste un truc, Pauline de Malherbe. Il y a juste un truc où c'est clair. Si tu bosses chez CNews, là, t'es sûr que ta condamnation ne t'empêchera pas de continuer à bosser.
Merci, M. Borloo. Je me tourne à présent vers un autre avocat, notre collègue, grande gueule, Charles Consigny.
Écoutez, moi, je trouve... dans cette affaire, et je dis bien, je pense, je ne suis pas sûr, je pourrais être très prudent, excusez-moi, pardon, je m'excuse.
Bien sûr.
Parce que je n'ai pas eu accès à toutes les pièces du dossier. Mais j'ai l'impression que Madame Le Pen, dans cette forme de défense, pardonnez-moi, excusez-moi, je m'excuse, je trouve que dans cette forme de défense, elle a fait preuve, et là, je ne parle pas de l'attitude des juges qui, pardon, c'est mon avis, pardonnez-moi de défendre. Non, je ne sais pas si. Mais j'ai l'impression que Madame Le Pen face au juge.
Je vais continuer rapidement. C'est quoi votre analyse?
Non, mais attendez, Apolline, vous venez de me couper alors que j'arrivais à ma conclusion.
Ah oui.
Bon, donc par esprit de cohérence, je vais reprendre depuis le début.
Donc... Non, c'est bon, merci beaucoup, Charles Consigny et Nicolas Cantelou. Donc on retrouve dès demain 8h50 sur RMC. Et à tout moment, un podcast, dans un instant, les GG. Quel est le programme, Alain?
Et on s'en fout pas.
Eh bien, merci Nicolas, on se demandera si c'est game over pour Marine Le Pen, si ceux qui vapotent au boulot nous emmerdent et nous pourrissent la vie avec leur parfum à la noix. Et puis on recevra Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement National, pour commenter Marine Le Pen et l'atout Bardella pour le RN.